Chapitre 40. 1993. Mark avait enfermé Kirsty et Gray dans une petite pièce rectangulaire remplie de vieux meubles, tout en haut de la maison, sous les combles. La musique était si forte au rez-de-chaussée qu'ils l'entendaient traverser les étages. Elle faisait vibrer la plante de leurs pieds et la vitre de la lucarne. Mark avait facilement pu les emmener au troisième étage sans que personne les remarque. Kirsty était couchée en boule sur un lit, et Gray essayait de défoncer la porte, mais c'était une porte ancienne, très résistante, et il n'arrivait même pas à la faire bouger dans son cadre. Il se dirigea vers la fenêtre pour l'ouvrir, mais elle était verrouillée, elle aussi. Il brisa la vitre avec son poing, espérant que quelqu'un, dans le jardin, l'entendrait. Kirsty se mit à sangloter. « Kirsty, il est presque minuit, » lui dit Gray en s'asseyant à côté d'elle. Et tu te souviens, papa a dit que si on n'était pas rentré à minuit, il viendrait ici pour nous coller la honte de notre vie. Il va pas tarder, d'accord ? Elle secoua la tête et renifla.
Mais Mark va raconter qu'on n'est pas là, qu'on est parti.
Papa s'inquiétera, et au bout d'un moment, il viendra nous chercher ici.
Il sera peut-être trop tard.
Il lui sourit. Mark ne va pas nous faire de mal, ne t'en fais pas, je l'en empêcherai.
Mais regarde ton poignet, t'as rien pu faire.
Gray baissa les yeux vers son articulation et observa l'atroce position de sa main par rapport à son bras. On ne s'y attendait pas, mais maintenant, on sera prêt, ok? On sait ce qu'il veut, on va se préparer. Il se leva du lit et ouvrit les tiroirs des tables de chevet. Fouille dans l'armoire, il y a forcément des trucs qu'on peut utiliser ici.
Comme quoi?
N'importe quoi. Des aiguilles, une brosse à dents, une couverture, on sort tout, et on trouvera un plan après. De la sueur coulait du front de Gray jusque dans ses yeux. L'adrénaline prenait le pas sur la douleur de son poignet cassé, mais son corps était en état de choc. Il cria de joie en trouvant dans le tiroir du haut une boîte de paracétamol. Les comprimés étaient périmés depuis 1990, mais il n'en avait rien à faire. Il en goba quatre. Il trouva également un guide touristique de la région qui datait de 1988, de vieux billets de train et deux reçus de pressing attachés à des épingles à nourrice. Il déposa délicatement le tout sur la table de chevet et ouvrit le tiroir suivant. Il découvrit des tablettes antidiarrhéiques, un jeu de cartes, des mouchoirs usagés, des briques de jeux de construction, un prospectus du manoir de Slidmire et, au fond du tiroir, enroulé sur elle-même, une ceinture fine en cuir qui appartenait à une robe de femme. Il les déposa à côté de ses autres trouvailles et alla fouiller la seconde table de chevet. Il y dénicha d'autres objets divers et variés, oubliés là par des invités. Des écouteurs, des piles, un magazine de mots croisés, un élastique, un masque pour les yeux, Virgin Atlantic et des papiers de bonbons froissés. Il soupira.
« T'as trouvé quoi ?»« Des cintres en métal !»
lui répondit sa sœur.
« Plein !»«
C'est bien ça, » grogna-t-il en attendant désespérément que les médicaments fassent effet. « Quoi d'autre ?»«
Un vieux pantalon d'homme plein de taches et qui pue, des couvertures, un sèche-cheveux, des boules de naphtaline, un chauffage électrique et des chapeaux. »«
Bon, » commença-t-il en sortant les cintres. « Je pense qu'on pourrait lui faire assez mal avec ça. Il faut que tu les défasses. » « Triture-les un peu. Oui, comme ça, jusqu'à ce qu'il s'ouvre. Parfait, mets en deux dans tes poches. Tu pourras lui arracher les yeux avec. Fais un plus grand crochet avec celui-là. Voilà, génial. » Il jette un coup d'œil au reste de la pièce. Une chaise en bois trônait dans le coin. Il essaya de la soulever d'une main, mais elle était trop lourde pour pouvoir frapper quelqu'un avec. Il remarqua la lampe de bureau sur l'une des tables. Le socle était très solide. Assez lourd pour assommer quelqu'un. Un plan commençait à prendre forme dans son esprit. Il demanda à Kirsty de tenir la lampe pendant qu'il arrachait le fil électrique, puis il poussa la chaise jusqu'à la porte. « Tu vas te mettre là, » lui murmura-t-il rapidement en essuyant la sueur qui perlait sur son front. « Prends ça. » Il lui tendit une couverture. « Quand il entre, tu lui couvres la tête avec, et moi je m'occupe du reste, ok ?» Kirsty acquiesça et prit un air paniqué.
« Et si je le rate? Si ça se passe mal ?»«
Ça ne va pas mal se passer, et moi je l'attends avec ça, » expliqua-t-il en montrant la lampe. et ça. » Il désigna le fil électrique et la ceinture. « Au pire du pire, prends la chaise et frappe-le fort avec. Puis attaque-le avec les cintres pour lui faire le plus mal possible. Utilise tout et n'importe quoi, d'accord ? Le plus important, c'est qu'on réussisse à sortir. Ensuite, on pourra appeler à l'aide. Il faut qu'on se batte comme des bêtes, Kirsty. Comme des bêtes. » Elle hocha la tête, l'air peu convaincu. Il la prit dans ses bras et serra fort. « Je t'aime, Kirsty. Quoi qu'il arrive, il faut que tu le saches. Tu es la meilleure sœur du monde. Je suis super fière de toi et je t'aime. » Elle appuya sa tête contre son torse et il posa son menton sur sa tête en regardant le plafond. Les médicaments n'agissaient pas. Son poignet lui faisait extrêmement mal. Il avait l'impression que l'on enfonçait des milliers d'aiguilles dans tout son bras. Il voulait s'allonger sur le sol et pleurer. Mais il devait rester aux aguets. Il devait protéger sa sœur. Ils entendirent du bruit derrière la porte et se mirent en position. Kirsty grimpa sur la chaise et déplia la couverture. Gray se rangea sur le côté, tenant fermement la lampe de sa main gauche. La douleur avait disparu.